9h-10h. À votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et on parle de sexualité le mardi dans cette émission avec Nadia Elbouga. Bonjour Nadia.
Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous.
Sage-femme et sexologue. Parler de sexualité dans le couple ce matin, ou la pédagogie de la parole dans le couple. Alors j'imagine vos mines embarrassées dans votre voiture ou en train de nous écouter de l'autre côté du micro. En train de vous dire, mais qu'est-ce qu'ils vont encore chercher? Laissez ça, on n'a pas envie d'en parler, laissez-nous tranquille. Ça se fait pas de parler de sexualité dans le couple.
Oui. Alors, c'est ce qui ressort assez souvent. Moi, j'ai voulu parler justement de ce sujet-là parce que très souvent, ça revient dans les couples. Oui, mais quand je veux lui en parler, c'est pas possible. Il ou elle, hein, d'ailleurs, elle se braque ou il se braque, ou c'est jamais le bon moment, ou alors je la sens ou je le sens mal à l'aise. Comment faire si on n'arrive même pas à en parler? Vous pensez bien que voilà. Le reste est un petit peu plus compliqué aussi, ou je ne suis pas satisfait ou je ne suis pas satisfaite parce que justement comme on n'en parle pas, ben j'arrive pas à lui expliquer ce que j'aimerais, ce que je n'aimerais pas.
Alors on verra tout à l'heure ce qu'on peut avoir envie de dire à sa femme ou à son mari, mais vous l'avez déjà dit plusieurs fois, Nadia, parler de sexualité, c'est pas parler de sexe.
Oui, ça peut être parler de sexe, mais c'est beaucoup plus général que ça. Parler de sexualité, c'est parler de la relation que l'on a à l'autre dans le couple. C'est comment on vit son couple. C'est aussi comment on aimerait le vivre, comment on aimerait vivre sa relation sexuelle, sa relation affective, sa relation, pourquoi pas aussi intellectuelle au sein du couple. Donc parler de sexualité, c'est très large au sein du couple. Et malheureusement, on constate qu'il y a beaucoup de couples qui ont du mal à parler de ça parce qu'effectivement, c'est peut-être même plus difficile de parler de la relation que de parler de sexe au final.
On est d'accord, Nadia. On verra. Peut-être je suis d'accord, mais vous ne serez pas. Vous êtes d'accord pour dire que parler de sexualité, c'est un sujet embarrassant. C'est pas un sujet comme un autre.
Alors, ce n'est pas un sujet embarrassant. Non, effectivement, je ne suis pas d'accord. C'est pas un sujet embarrassant.
Voilà, très bien.
Voilà. Mais c'est un sujet effectivement qui est vécu comme embarrassant. Parce que parler de sexualité avec son ou sa partenaire, c'est au final, qu'est-ce qui est embarrassant? C'est pas la sexualité en elle-même, c'est tout ce qu'elle suscite. C'est ça qui est embarrassant. C'est-à-dire que quand vous parlez de sexualité, au final, vous parlez de vous. Vous vous dévoilez, vous parlez de votre intimité, de ce que vous souhaiteriez mettre en place, souhaiteriez vivre, ou ce que vous aimeriez partager avec l'autre. Et ça demande un certain éclaircissement avec soi-même. Là est le problème. Mais c'est pas la sexualité en elle-même qui pose problème.
Alors, il y a cette idée que l'autre, finalement, elle est médium. Elle lit dans nos pensées et elle comprend tout ce qu'on veut et tout ce qu'on aime.
C'est ça. En fait, ce mythe à la vie dure. Les couples, et très très tôt d'ailleurs, quand ils se constituent, pensent... Alors, il y a deux choses. Ils vivent la sexualité de l'autre comme leur propre sexualité. C'est-à-dire que, finalement, on est très peu à l'écoute de l'autre. On est finalement qu'à l'écoute de soi, dans le sens où vous projetez vos propres désirs sur l'autre. C'est-à-dire que vous visualisez votre sexualité, la sexualité de votre couple, comme selon votre point de vue. Donc, partant de là, effectivement, on fantasme cette idée que l'autre doit forcément savoir ce que vous aimez, et que de toute façon, ça va même très loin, c'est même une preuve d'amour.
Ouais.
C'est-à-dire que si vraiment elle m'aime ou il m'aime, eh bien, il devrait savoir que...
Alors, elle sait ce que je veux, comme moi, je sais ce qu'elle veut.
C'est ça.
Vous
avez tout à fait raison. Grosso modo, c'est ça. un peu d'ailleurs comme dans les familles, hein, au final, on finit par avoir un certain fonctionnement et ça nous paraît évident quand dans telle ou telle situation que l'autre membre de la famille réagisse de telle ou telle manière. Mais en fait, si on déconstruit ce mythe, si on est un tant soit peu rationnel, évidemment que l'autre ne peut pas deviner ce que l'on aime, ce que l'on apprécie. D'autant plus que il faut contextualiser. Vous n'avez pas les mêmes envies, les mêmes besoins aujourd'hui et demain, ou comme ceux de d'hier ou avant-hier. Donc c'est juste aberrant de penser ça. Et les gens finalement, quand vous leur causez, ils vous disent oui c'est vrai, mais quand même elle devrait savoir au bout d'un certain nombre d'années que voilà, il y a telle ou telle chose.
Ah, vas-y, moi j'ai besoin d'un exemple, Nadia. Si vous n'avez pas d'exemple, je peux pas m'imaginer. Elle devrait savoir au bout d'un certain nombre d'années que je dors à droite.
Et voilà. Non, mais si, par exemple, soyons concrets.
Oui, parce que sinon, ça ne me parle pas, Nadia.
Dans une relation sexuelle.
Oui.
Si vous avez le partenaire ou la partenaire qui préfère telle forme, on en a parlé mille et une fois, telle forme de caresse. On a dit qu'il y avait différentes formes de caresses, hein. Il y a l'effleurement, il y a le souffle, il y a la caresse appuyée, il y a le palpé, il y a différentes façons de toucher, d'accord ? C'est une richesse dans la relation sexuelle. Si vous ne dites pas
écoute, chérie, ça fait 25 ans que je te l'ai pas dit, mais tu me chatouilles.
Au niveau du côté droit du cou,
mais ça me chatouille.
En bas de l'oreille, mais voilà, ça me chatouille, je n'aime pas ça. Si vous ne le signifiez pas à votre partenaire, mais comment voulez-vous qu'il devine ? Il va, si à ce moment-là vous exprimez en fait du plaisir ou en tout cas un semblant de plaisir, eh bien, le partenaire ou la partenaire va se dire, je suis sur le bon chemin, donc je continue. Hier, c'est ce qu'elle a apprécié, c'est ce qu'il a apprécié. Bon, je referai ça aujourd'hui. Et donc, ne vous étonnez pas si à chaque fois, on vous resserre exactement le même plat. Donc, à un moment donné, vous en avez ras-le-bol des pâtes. Si vous en avez ras-le-bol des pâtes, il faut le dire. Dire, voilà, aujourd'hui, j'ai pas envie de manger des pâtes, j'ai envie de goûter à autre chose.
Bien. Nadia, en quoi cette communication sur la sexualité est-elle essentielle pour le couple ? Ou est-ce que le couple, il peut vivre sans ? Et continuer dans les non-dits, les habitudes,
les codes. Alors oui, il y a des couples qui vont vivre sans, effectivement, mais ils vont passer à côté d'un épanouissement certain. C'est-à-dire que, pour moi, la construction du couple, l'élévation du couple, vraiment l'étoffage de du couple, c'est justement de pouvoir échanger sur ses ressentis, alors après on verra les moments, parce qu'il y a des moments qu'on doit choisir.
Si je vous comprends bien, Nadia, pour vous, le secret d'un couple qui est épanoui, c'est un couple qui communique, et qui communique notamment sur la sexualité du couple.
Exactement. Et communiquer, c'est pas forcément parler, hein. On peut très bien communiquer avec des gestes. Si par exemple, au moment même du rapport sexuel, il y a quelque chose que je n'apprécie pas, mais je suis dans la magie du moment et je ne veux pas que mon intervention coupe l'élan réciproque, eh bien je peux accompagner la main de ma partenaire ou de mon compagnon pour lui indiquer avec une douceur, une subtilité, ça fait partie du jeu érotique et ça c'est de la communication. Si maintenant je joue l'étoile de mer et au final l'autre pense qu'il est sur la bonne voie et en fin de compte je lui laisse entendre que tout est satisfaisant, il ne faut pas s'étonner, comme je vous dis, si il resserre le même plat le lendemain. Donc, communication, mais la communication, elle peut prendre plusieurs formes. On n'est pas uniquement sur la parole, et c'est peut-être ça. Quand on dit parler, alors effectivement, parler de sexualité, oui, mais pas que.
Vous savez, c'est quand vous êtes en voiture que vous pouvez pas vous échapper et que vous avez 5 heures de route à faire, bim.
Alors, on le verra, il y a des moments qui sont plus propices que d'autres pour parler de sexualité. Mais oui, il faut instaurer, et là pour le coup j'aime pas les il faut, on doit, mais là je vous assure que c'est appliqué dès le départ, dès le début de votre relation. Vraiment, mettez-y de l'humour, de la fantaisie, taquinez-vous en parlant de sexualité, en communiquant sur la sexualité, parce que c'est quelque chose, c'est une habitude. Il faut que par la suite, ça puisse devenir une routine. Et la routine,
naturelle,
c'est pas,
voilà, finalement,
c'est pas quelque chose de négatif. Voilà, que ça devienne effectivement naturel, que ça coule de source, de dire à l'autre, aujourd'hui, je ne souhaite pas telle ou telle chose, mais plutôt telle ou telle autre. Il faut que ça puisse couler de source, comme lorsque aujourd'hui vous rentrez à la maison et que vous avez envie, vous avez une forte envie de manger, je sais pas moi, de la saule avec une purée, j'en sais rien. Eh bien, que vous puissiez demander ça parce que la veille vous avez mangé des lentilles, que vous avez envie de goûter à autre chose. Je prends la métaphore culinaire parce que c'est ce qui c'est.
Parce que après les pâtes, vous nous servez des lentilles.
Non, mais je prends la métaphore culinaire parce que c'est tout ça
pour dire que finalement, ce n'est pas si évident de trouver les mots, et que les mots qu'on utilise pour parler de sexualité, eh bien, ce sont des mots qu'il faut choisir et qui viennent pas toujours en bouche de tous ceux qui nous écoutent.
Exactement. Et c'est une habitude à prendre. Mmh. C'est-à-dire qu'après, eh bien, vous ne réfléchissez plus aux mots que vous dites, mais vous les vivez. C'est-à-dire que ça devient un langage tout à fait normal, et même apprécié de l'autre.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Nadia, à ceux qui nous écoutent, qui se disent que déjà, cette conversation, ça a l'air difficile, et qu'en plus, elle sert à rien?
Alors, moi, je dirais, justement, à ces personnes, que ça ne sert pas à rien. Qu'au contraire, c'est du gagnant-gagnant. Parce que, quand vous parlez avec l'autre, en fait, vous lui donnez des pistes d'amélioration. Vous lui proposez autre chose, et en plus, parce que dans le couple, souvent, il y en a un qui est plus à l'aise que l'autre. Et bien, celui qui est plus à l'aise, moi, je l'invite justement à initier le dialogue, à initier l'échange, et progressivement, il s'étonnera de voir l'autre s'autoriser et se libérer un petit peu plus au niveau de la communication sexuelle, parce qu'au final, eh bien, si vous échangez, si vous permettez à l'autre de s'exprimer, eh bien, vous êtes le premier ou la première gagnante dans l'histoire. Pouvoir dire ce que l'on n'aime pas ou ce que l'on n'apprécie pas, et ce que l'on aime également, eh bien, c'est se donner la possibilité d'améliorer la relation.
Parler de sexualité dans le couple ou la pédagogie de la parole dans le couple, c'est jusqu'à 10h sur Beurre FM.
À votre santé, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Avec Nadia Elbouga, qui est là avec nous le mardi, parler de sexualité dans le couple ou la pédagogie de la parole dans le couple. Alors, il y a, Nadia, un présupposé en communication, c'est qu'en fait, il faut arrêter de se parler pour dire ce qui ne va pas. Il faut aussi parler de ce qui va. Parce que 95% ou 96% des choses vont bien. Donc si on ne se parle que quand, pour parler des 4% des choses qui vont pas bien, au final, la communication, elle est toujours négative.
Exactement.
Donc
ça.
Il faut quand même relativiser les choses, et pour dédramatiser. Parce que sinon, c'est tu me convoques, tu me parles, qu'est-ce que j'ai encore fait de mal?
Exactement. C'est très important ce que vous dites, Philippe. Parler de sexualité, ce n'est pas parler de ce qui ne va pas. Évidemment, ça peut, mais ça doit être une infime partie.
Voilà, parce que sinon, vous voyez, non, parce que, sinon les gens diront, ah ben de toute façon, tu me dis toujours quand ça va mal.
Exactement, donc, et c'est pas constructif, parce qu'au final, vous risquez de braquer l'autre et il n'aura effectivement plus envie de parler de sexualité. Non, parler de sexualité, comme je disais avant la pause.
On appelle ça une page de publicité, Nadia.
Oui, voilà, la pause, la page de pub. c'est donner, c'est pouvoir donner à l'autre la possibilité d'explorer d'autres pistes. Donc, parler de sexualité, finalement, c'est suggérer des choses à l'autre, pouvoir co-construire ensemble. Et puis aussi, ce que vous dites, généralement, quand on est dans une communication comme ça très négative, c'est parce qu'on est dans une posture de critique, d'attaque. Là, moi, ce que je vous propose, c'est d'être dans une posture d'expression de ses besoins. Parlez de vous.
Oui, pas de l'autre. C'est pas toi,
non,
c'est moi.
Non. Parlez de l'autre que lorsque il y a valorisation. C'est-à-dire dire c'était génial, j'ai beaucoup aimé notre relation hier, je me suis sentie bien à tel ou tel moment, comment, quoi qu'est-ce. Ok. En revanche, si c'est pour le tu qui tu, c'est il y a aucune utilité.
La stratégie du klaxon.
Voilà, tout à fait. Tu ne comprends pas, mais tu es toujours à côté de la plaque depuis le temps. T'as pas compris que faut me toucher comme ci, faut me toucher comme ça. Non, ça on laisse tomber. C'est plutôt j'ai besoin d'eux. Donc parlez de vous. Si vous parlez de vous, vous allez donner envie à l'autre non seulement de parler de lui ou d'elle, et de parler de ce qu'elle a peut-être envie de faire avec vous. Donc c'est effectivement très bien de le souligner. L'échange, la communication, dans ce cas-là, elle doit être constructive. Sinon, il n'y a aucun intérêt.
Alors, je vais mettre des guillemets. Est-ce que c'est too much information, comme disent les Américains? Est-ce que c'est trop d'informations à donner sur soi-même? Parce que parler de soi, c'est quand même lever un coin de l'intime.
Oui, alors il y a différentes façons de parler de soi. On peut parler de soi de façon indirecte. On peut parler de soi à travers des lectures, on peut parler de soi à travers ce que l'on apprécie en sortant du contexte sexuel. Si par exemple une personne apprécie par exemple telle modalité de toucher position ou telle, elle peut très bien, cette personne, l'exprimer sans être totalement crue, parce que l'autre peut effectivement se braquer. Il y a la façon,
je sais pas comment on dit, bon, finalement cette position là j'ai été bloqué pendant 8 jours, on va laisser tomber.
Eh bien, c'est pas, ne le dites pas, mais proposez.
Mais boitez, vous envoyez votre rendez-vous chez le rebouteux.
Voilà. Non, on en rigole, mais voilà, par exemple, c'est une situation qui est tout à fait réaliste.
J'essaye de dédramatiser, c'est pour ça que je le dis, Nadia.
Eh bien, justement, on peut proposer sous le ton de l'humour, en disant, ce serait bien qu'aujourd'hui, on puisse voyager autrement, utiliser une autre destination. Vous pouvez utiliser des métaphores, vous pouvez utiliser les images. Vous n'êtes pas obligé d'être direct et cru dans vos mots. Il y a mille et une façons. Alors, et le couple sait. Sait comment il communique habituellement.
Je prends un cas concret. Nadia, comment expliquer à sa partenaire qu'on n'a pas envie de faire l'amour ce soir?
Alors, il y a deux façons. On peut très bien. Alors, comme je vous dis, si on a l'habitude de communiquer, on peut de façon très sereine expliquer à l'autre que On est ravis d'être en sa compagnie, que voilà, qu'on l'aime. Commencer toujours par valoriser et dire ben voilà, ce soir on est en escale et on continuera le voyage peut-être demain ou voilà un autre jour. Donc il faut vraiment, il faut y mettre un peu plus d'humour et pas être dans le.
C'est pas ce soir, j'ai très très mal à la tête, j'ai pris 3 Doliprane.
Ça peut être ça, mais bon, ouais. C'est du vu et revu
ouais,
et
non, ça marche pas, ça.
Et réentendu.
Ça marche pas.
Ça dépend de comment fonctionne le couple. Dans certains couples, ça peut fonctionner. Maintenant, tout dépend comment l'autre va recevoir la chose. C'est-à-dire que si vous avez justement vous avez initié l'échange avec votre partenaire, dire non à l'autre, et on en a parlé la semaine dernière, hein, cette histoire de consentement, dire l'autre à non. Le dire non à l'autre, ça y est, les fusibles sautent. Si c'est reçu comme un rejet par l'autre, c'est qu'il y a justement quelque chose qui dysfonctionne dans le couple.
Parce qu'il y a la peur que ce soit ou déjà ressenti comme un rejet ou la peur de blesser l'autre.
Oui, c'est pour ça que je vous dis, ramenez toujours les choses à vous. Donc, vous avez tout à fait le droit de refuser une relation sexuelle avec votre partenaire. C'est tout l'art et la manière de présenter la chose. C'est-à-dire que faites en sorte que l'autre ne vive pas ce non comme un rejet. Donc, parlez de vous. Aujourd'hui, je ne suis pas disposée pour telle ou telle raison. Vous avez eu une journée chargée, vous êtes fatiguée ou vous avez d'autres préoccupations. On a le droit, on n'est pas... attention, injonction de performance, on n'est pas tout le temps au top du top de sa forme sexuelle. Donc, il faut pouvoir le dire, mais le dire sans que l'autre se sente rejeté. C'est tout l'art de la communication, justement. Donc, au contraire, dans un couple qui fonctionne de façon sereine, le « je ne veux pas ce soir » ou « je ne peux pas ce soir », doit être vécu comme un oui.
Alors, justement, Nadia, quelles sont les différentes formes de cette communication ?
Alors, la façon de parler, comme je vous ai dit, avec son partenaire, c'est quelque chose que vous devez travailler parce que on n'a pas les mêmes canaux de communication les uns et les autres. Vous avez par exemple des partenaires qui vont être beaucoup plus dans l'audition et donc chaque mot va avoir un poids, va avoir du sens et sera plus impactant. D'autres vont être plus dans le visuel, donc utiliser plutôt des métaphores ou des images dans l'échange. D'autres seront beaucoup plus kinesthésiques, donc dans le toucher. Donc dans ce cas là, la communication va passer tout d'abord par le contact ou par quelque chose de plus enveloppant. Donc ça, c'est un travail que l'on fait
devant son micro.
C'est un travail, pardon, que l'on fait continuellement dans son couple, c'est-à-dire pouvoir percevoir quel est le canal prédominant chez son ou sa partenaire. Et ça, très peu de couples le font. C'est-à-dire qu'ils communiquent avec leur canal à eux. C'est-à-dire que si moi je suis une visuelle, je vais communiquer avec des métaphores visuelles. Et mon partenaire qui est plutôt auditif,
ça lui parle pas.
C'est le cas de le dire, ça lui parle pas du tout. Donc, attelez-vous justement à comprendre le fonctionnement de l'autre parce que c'est fondamental. Vous avez là la clé principale de l'échange avec l'autre si vous souhaitez justement le toucher et le toucher au bon endroit et de la meilleure des façons.
Après, il y a le choix des mots.
Après, effectivement, il y a le choix des mots. Alors ça, pareil aussi, c'est couple dépendant. Vous avez des gens qui sont qui aiment les propos plus directs, d'autres qui sont beaucoup plus dans la subtilité, dans le contournement. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui se perçoit, qui se travaille dans le couple. Il y a pas besoin d'être en couple depuis des années hein, pour le percevoir. Hein. Dans les premiers échanges, déjà, on sent, on perçoit, on analyse la façon de fonctionner de son partenaire ou de sa partenaire. Donc, Donc ça, c'est très important. Aussi, quand vous échangez, osez parler de vos craintes. Osez parler de vos peurs aussi. Alors, on a dit qu'on parle de ses besoins. Mais dites aussi, n'attendez pas que justement, de façon imprévue, ce que vous craignez ou ce dont vous aviez peur qu'il n'arrive un jour arrive. Parlez-en.
Les prophéties auto-réalisatrices.
Exactement, exactement. Au contraire, ne cachez pas les choses. N'ayez pas honte de dire. Dites. Et puis l'autre fera avec et il amènera ou elle amènera les choses de façon progressive. Parce que le pire, c'est justement lorsque restent ces non-dits là. Et comme vous dites, hein, c'est exactement ça, les prophéties auto-réalisatrices. Hein, c'est qu'au final, vous portez tellement cette charge qu'elle finit par arriver.
Et là, vous dites, et là, tu vois, j'avais raison.
Voilà, c'est exactement ça. Ben, tu vois, hein.
Je te l'avais bien dit, hein.
Je te l'avais bien dit, ou bien, je le savais de toute façon. Donc, pour éviter cette situation-là, ben, parlez aussi de vos craintes, surajoutées à vos besoins.
Alors, c'est comme tout, hein. Vous le disiez tout à l'heure, Nadia, il y a une question de moment. Est-ce qu'il y a des bons moments?
Oui. Alors, un des moments à éviter, en tout cas majoritairement, peut-être que certains couples ça leur convient.
C'est la vaisselle. C'est quand on fait la vaisselle.
Non, l'un des moments où il ne faut pas parler de sexualité, c'est au lit. Et c'est ce que font oui. Alors ça vous paraît étonnant, mais c'est justement ce que font une grande majorité des couples. C'est-à-dire que c'est pas à ce moment-là, c'est pas le moment opportun. Pour pouvoir parler de sexualité. Parlez de sexualité lorsque vous n'êtes pas dans la sexualité. Pourquoi ? Parce que il y a une espèce de chape de plomb qui se pose là quand vous êtes ensemble dans le lit, mais ça peut être ailleurs, hein, mais voilà, on va prendre le lieu le plus communément utilisé. Si vous parlez de sexualité à ce moment-là, le risque, c'est de braquer l'autre, justement, et de couper court à tout potentiel.
Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a d'interdit dans ce territoire?
Non, c'est pas un interdit, mais c'est pas conseillé. Parce qu'à ce moment-là,
diplomatiquement, vous déconseillez d'utiliser la chambre et le lit pour parler de sexualité.
Exactement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une prise de distance à avoir. Si vous parlez, alors choisissez vos moments, bien sûr, c'est-à-dire si vous parler de sexualité, de votre sexualité après une dispute, on est d'accord que là, vous ne serez pas dans l'expression de vos besoins.
Là, en général, il y a tout qui remonte. Hein.
Voilà, là, vous serez dans le tu-qui-tu.
Il y a le package. Hein.
On est d'accord. En revanche, si vous utilisez un moment en dehors, justement, de toute sexualité, où vous êtes plutôt sereins tous les deux, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'enjeu direct là, eh bien le résultat sera plus probant.
Parler de sexualité dans le couple, on en parle avec Nadia Albouga jusqu'à 10h sur Beurre FM.
À votre santé, reviens dans un instant. À votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et on parle de sexualité dans le couple, ou de la pédagogie de la parole dans le couple avec Nadia Elbouga. Non, ça n'a rien à voir avec mon dos, je vous assure. C'est l'âge, Nadia.
D'accord.
D'ailleurs, vous-même, vous m'avez surprise parce que vous aviez mal au dos récemment.
Oui, mais moi, je vous rappelle que suis issue du milieu hospitalier et que j'en ai porté des patientes à l'hôpital.
D'accord.
Donc voilà, mon mal de dos vient de là.
25 ans de rugby, c'est pareil, vous prenez ou pas?
Je prends.
Ça n'a rien à voir, n'imaginez pas un Kama Sutra trop compliqué.
Je prends. Parce que normalement, avec une bonne bascule du bassin, vous ne devriez pas avoir mal au dos.
Ah, écoutez, ça devient technique, Nadia, on va revenir. Parce que vous disiez que tout à l'heure, s'il y a bien un lieu dans lequel il ne faut pas parler de sexualité, c'est dans la chambre.
Oui. Alors pas forcément, effectivement, pas forcément dans le lit. Pourquoi ? Parce que il vaut mieux avoir plutôt un contexte de détente, de sérénité où il n'y a pas d'enjeu. Parce que parler de sexualité dans le lit, eh bien, c'est mettre la pression indirectement à l'autre. En tout cas, l'autre peut vivre ça comme une pression et donc c'est l'effet inverse, c'est-à-dire que au lieu de susciter une ouverture, vous suscitez du coup un blocage.
Alors Nadia, où et quand?
Alors identifier, oui, où? Pas dans le lit, pas dans la chambre à coucher, voilà.
D'accord.
Partout où vous voulez, sauf là.
Là, bien.
Et quand, dans un moment justement qui est perçu par par les deux comme un moment de détente, ça peut être l'heure d'un dîner, d'une sortie ensemble, un moment où il n'y a pas voilà la marmaille qui braille.
Voilà. C'est pour ça que la chambre c'est bien parce que tout le monde est couché et donc.
Oui mais non.
Bah c'est la trêve.
Alors non, justement, ça permet, ça donne aussi l'occasion au couple d'aller voir ailleurs, hein, c'est de pouvoir pouvoir sortir, et je dis ça notamment au couple. Parental, comble conjugal et parental, de pouvoir justement s'octroyer des moments en dehors du foyer, déjà pour en profiter à deux, pour s'épanouir à deux, mais aussi pour pour échanger sur les besoins de l'un et de l'autre. Alors c'est très important parce que parler de sexualité, c'est pas donner des leçons à l'autre, hein. C'est tout sauf ça, hein. C'est pas voilà, je vais profiter du dîner en ville de ce soir pour justement
pour vider mon sac.
Voilà, pour vider mon sac. Mmh. Et non, c'est ce qu'on a dit en première partie, hein, ce n'est certainement pas ça. C'est justement pouvoir instaurer un état d'esprit positif sur notre sexualité et ouvrir voilà des pistes de croissance qui vont nous permettre de s'autoriser à explorer d'autres
croissance. Vous savez, j'ai l'impression que je suis en entreprise. Vous savez, maintenant, on fait des plans de correction, des plans de l'amélioration. Vous voyez?
Ah, j'ai pas dit plan.
Non.
J'ai dit des pistes.
Des pistes. Voilà. Bon, des pistes, c'est pareil. Bon, alors, Nadia, je me lance. Vous me regardez pas. Hein. Bon, il y a une question que beaucoup d'hommes se posent, qui dit que vous me regardez pas. C'est de savoir comment, et savoir s'ils ont satisfait leur partenaire. Donc, comment est-ce qu'on peut évaluer le degré de satisfaction réelle de sa partenaire?
Oui. Alors, je réponds par une question. Faut-il évaluer le degré de satisfaction de sa partenaire?
C'est les trucs d'hommes, ils veulent savoir.
Mais
ça.
Justement, messieurs, changez de façon de faire. Ne cherchez à évaluer votre degré de satisfaction à vous. C'est-à-dire, ne vivez pas votre satisfaction au travers de l'autre, parce que ce ne sera toujours qu'une représentation. Il n'y a pas besoin de savoir si l'autre a atteint le septième ciel pour se sentir bien. Ça, c'est précisément justement un manque de confiance en soi et même un manque d'estime de soi. À partir du moment où je suis bien, si l'autre, si on est dans l'échange, si on est dans la communication, justement, l'autre va exprimer ses besoins. Après, libre à l'autre de trouver dans ce que je lui propose la satisfaction de ses besoins. Mais sortons, parce que ça, c'est le début de l'injonction de performance. Si je ne vis ma sexualité qu'au travers du ressenti de l'autre, je suis pris au piège, de facto. Non, c'est je cherche moi. Faites, apprenez.
C'est quand même égoïste.
Mais la sexualité, ce n'est que ça. Excusez-moi de vous dire, ce n'est que de l'égoïsme. Eh oui, la relation, on établit la relation à l'autre. Alors, vous allez comprendre quand je dis ce n'est que de l'égoïsme.
Oui, parce que je vous connais.
Mais bien sûr. Oui. On peut établir une relation. D'ailleurs, vous savez très bien que je déteste le terme acte sexuel et que pour moi, je parle de relation sexuelle justement parce que il y a un lien qui se crée à l'autre. Mais pour que ce lien se crée à l'autre, il faut que je puisse créer un lien avec moi-même, c'est-à-dire de pouvoir moi mettre en place mes propres repérages. C'est-à-dire que très souvent, vous justement, merci pour cette question, parce que très souvent, on cherche à identifier ses repérages en fonction de l'autre. Or, quand vous demandez aux gens, mais toi, tu ressens quoi ça, en parlant de l'orgasme, par exemple.
Ils ne savent pas toujours très exprimer, et tout le monde n'a pas les mots pour exprimer.
Oui. Mais quand on se donne les possibilités d'eux, on arrive à sortir des éléments, hein, que ce soit par les mots, par les gestes ou par des images. Lorsque vous demandez par exemple est-ce que tu as atteint l'orgasme à une personne, alors la fausse croyance qui circule concernant les hommes, puisque nous sommes sur une question masculine, l'homme malheureusement, a été enfermée dans ce piège de « oui, ben, de toute façon, s'il a abouti, s'il a éjaculé, c'est qu'il a eu un orgasme ». Beaucoup d'hommes vous diront « non, j'ai peut-être éjaculé, mais je n'ai pas ressenti d'orgasme ». Et quand vous lui demandez de d'étayer, il vous expliquera que oui, il n'a pas ressenti. Alors oui, il a ressenti une détente musculaire, une détente au niveau du corps, mais que il n'a pas vécu quelque chose d'englobant, vraiment un plaisir sexuel qui l'a transporté, qui l'a habité. Comme la fois précédente ou les fois précédentes. Donc, cette question de vouloir identifier, et ça, c'est pas qu'une question masculine, hein, il y a beaucoup de femmes aussi, hein, qui sont dans cette représentation-là, notamment dans les situations où elles ne voient pas leur partenaire, elles ne voient pas l'érection de leur partenaire, remettre en cause le désir que le partenaire...
Tu m'aimes plus,
mmh. mais si, je t'aime et je suis bien. Non, je le vois bien. Non. C'est ce que vous pensez, c'est ce que vous avez projeté sur le désir de votre partenaire. Mais si lui, il vous dit que, au contraire, il vit quelque chose de très fort, qu'à ce moment-là, il est bien, soit. Donc, ne cherchez pas à interpréter la satisfaction de l'autre, mais apprenez-vous à repérer la vôtre.
Comment Nadia évoquait la question du moment où les désirs ne sont plus les mêmes entre deux partenaires quand on n'est plus synchronisé en fait. C'est-à-dire qu'il y en a un qui veut beaucoup, l'autre qui veut plus.
Oui.
Alors comment on évoque cette question-là?
Alors très bonne question.
Parce qu'il y a des hauts et des bas. Oui. Enfin, vous savez
oui,
que
oui.
Eh bien, tout le monde n'est pas forcément synchronisé de la même façon.
Oui. Eh bien, pouvoir, à mon sens, en tant que sexologue, moi, j'invite à l'exprimer.
Moi, j'appelle ça le libido mal assorti.
Oui. Oui, si vous voulez. Enfin, c'est un raccourci. C'est un raccourci
rapide.
Je fais ce que je peux
avec mes expressions, Nadia, s'il vous plaît.
Hein. C'est un raccourci rapide parce qu'en réalité, ce qui serait intéressant, c'est plutôt d'inviter l'autre quand il y a justement, comme vous dites, ces libidos. On a sorti, c'est de pouvoir inviter l'autre peut-être à venir vivre quelque chose qui le sorte, parce que il y a mille et une raisons d'exprimer son non envie. Pas dire manque de désir parce que
non,
c'est encore des raccourcis.
Non, c'est pas la non envie. C'est pas les mêmes désirs au même moment. Oui.
C'est pas les mêmes désirs au même moment, mais qui peuvent le devenir. C'est-à-dire, si on a communiqué, si justement on a cette facilité à parler autrement qu'avec les mots, M-O-T-S, eh bien, il y a possibilité d'amener peut-être l'autre ou de proposer à l'autre de rejoindre son moment de libido présent, c'est-à-dire susciter la naissance de la libido chez l'autre. Parce que en réalité, on n'est jamais synchronisé. Ça, c'est un mythe. Comme dans l'orgasme, d'ailleurs. On n'est jamais synchronisé. Donc, tout...
Ah oui, c'est-à-dire que le mythe du « je joue ensemble », ça ne fonctionne pas.
On peut être dans cette proposition-là, mais on ne l'est pas toujours. Donc, chercher, justement... constamment ce moment-là de synchronisation, qu'elle soit d'ailleurs au niveau de la libido et au niveau de l'orgasme, donc du plaisir sexuel, c'est commencer par le mauvais bout. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que justement, si on a communiqué ensemble, si on apprend à communiquer ensemble, si c'est quelque chose qui s'est instauré au fur et à mesure, eh bien, vous allez avoir, comme je disais, les bons éléments, les bons canaux pour faire une proposition à l'autre et l'amener. C'est comme si on sort de la sexualité. Je vous donne un exemple tout bête. On propose une sortie, d'accord ? Je propose à mon partenaire une sortie. Mon partenaire ne veut pas sortir à ce moment-là. Moi, je veux absolument sortir à ce moment-là. D'accord? Il y a deux alternatives. Ou il me dit « Non, mais vas-y, seul, ça m'intéresse pas, ce soir, je suis fatiguée. » Ok. Et dans ce cas-là, je me résous à sortir seul. Ou alors, dans ce cas-là, j'essaye, en bonne commerciale, de lui vendre cette sortie.
Le truc.
En lui, voilà.
Tu sais, si tu viens avec moi...
Non, j'ai pas parlé de chantage. J'ai pas parlé de chantage.
Mais je parle de vente.
Oui, mais j'ai pas parlé de chantage.
Attends, je vois la promo.
C'est-à-dire que je valorise.
Ah oui.
Je valorise cette sortie. Comment je lui mets, je lui donne l'eau à la bouche en lui donnant vraiment les bons côtés de ce qu'on va découvrir, de ce qu'on va pouvoir partager. Et ben peut-être que là, dire ouais, ben j'avais pas envie de sortir, mais là au final. Peut-être que je me serais tentée. Il est peut-être pas totalement réjoui, mais voilà, je lui propose en tout cas une découverte. Eh bien maintenant, remettons-nous, on bloque quand on parle de sexualité, mais si ce contexte-là, on le remet dans notre sexualité, eh bien pourquoi ne pas être, allez, on va prendre un terme d'entreprise, force de proposition.
J'adore. Je vais mettre force de proposition pour notre voilà. Couple. Bon, Nadia, spéciale dédicace aux Toulousains qui nous écoutent aujourd'hui, hein, puisque vous êtes... élève à Toulouse.
Tout à fait. Ouais. Je
fais un master
voilà,
à Toulouse.
Voilà, tout à fait. Je suis en master d'éducation à la sexualité.
Et vous découvrez notre belle ville.
Et je découvre une ville splendide et des gens juste extraordinaires.
Bien. Voilà, les Toulousains sont extraordinaires. Vous aussi, Nadia, à bientôt.
À bientôt.
À votre santé, reviens dans un instant.